Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Une tous les trois jours. C'est en moyenne le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint en France. Une sur sept sont celles qui seront agressées sexuellement au cours de leur vie, et une sur 26 subira un viol. Des chiffres glaçants et alarmants qui résonnent depuis quelques années et qui désormais, avec MeToo ou lors des dernières affaires qui ont éclaté au grand jour, ne peuvent plus être ignorés. La parole de toutes ces femmes comme acte de courage, d'indignation et de solidarité qui ne suffit malheureusement pas à stopper ces agressions. Il faut donc pour elles continuer de se défendre, et cela aussi physiquement. C'est justement ce que propose Mimo, professeur de boxe et de karaté à Diolfi, avec des ateliers de self-défense féminin qui ont commencé depuis plusieurs semaines. Bonjour Mimo.
Bonjour.
Donc comme je le disais, vous êtes d'abord professeur de karaté à Diolfi. Alors depuis quand et comment en êtes-vous venu à proposer des ateliers de self-défense féminin ?
Self-défense, ça a commencé il y a pratiquement deux mois maintenant. Deux mois pour répondre à une demande. Parce qu'on avait des mamans... qui ont ramené leurs élèves au karaté et puis ils ont demandé voilà, comment on peut faire pour apprendre parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de venir à un cours et suivre avec une régularité. Et donc on a eu l'idée d'extraire certaines techniques qui existent dans les arts martiaux et les proposer à ces dames, sachant que le self-défense il se base surtout sur la légèreté, la fluidité, l'intuition et je trouve que ces qualités-là elles l'ont les femmes. Donc nous, on fait juste appuyer sur ce qu'ils ont et en leur ajoutant quelques techniques de service, on peut dire, parce que vous avez parlé de la violence. La violence est au sein de domicile, souvent, ça se passe.
Donc, clos.
C'est ça, clos et fermé. Et donc voilà, nous étions premiers surpris de l'engouement et de la demande.
Une demande du coup qui vient essentiellement des mamans qui amenaient les enfants au karaté. C'est pas des femmes qui participaient déjà aux ateliers de karaté.
Non, pas du tout. Donc au début c'était ça, c'est toi se retrouver et puis petit à petit donc on a proposé des stages. Là nous étions surpris hein, que bon c'est un écho et les gens sont venus, ils sont ravis. De la même manière que nous étions aussi surpris de voir à quel point il y a des femmes qui sont terrorisées, on voit les séquelles. C'est-à-dire ils ont du mal à ne serait-ce qu'impliquer un geste simple, dès qu'on parle de violence, ça crée quelque chose. D'autant plus qu'ils sont venus nous le dire après cours, comme quoi ils ont subi certaines violences et tout. Donc voilà, nous, ça nous donne envie encore plus de continuer dans ce domaine-là, leur offrir un outil qui leur permette d'avoir plus confiance en elles, premièrement, et dire stop, j'existe. Donc ça peut passer par le geste, pourquoi pas.
Et pourquoi l'avoir réservé alors uniquement aux femmes ? Est-ce que c'est aussi parce que quand on est victime de violences conjugales ou d'agressions, ça peut être difficile par exemple de faire un cours de karaté face à des hommes qui sont bien souvent malheureusement leurs agresseurs ?
Vous parlez de self-défense ?
En self-défense, ouais, pourquoi le réserver uniquement
aux femmes, entre autres pour cette raison-là, c'est que je vous dis, il y a certaines dames qui sont terrorisées d'être face à un homme. Donc petit à petit, on les prépare un peu à avoir confiance en elles déjà. Et pourquoi pas les ramener aussi à faire du karaté plus tard ou faire autre chose. Bon, en tout cas, l'objectif, c'est d'abord qu'il prend conscience qu'il a un potentiel énorme. Et puis avoir confiance parce que, vous savez, les gens ou les femmes qui ont subi des violences, ils sont tellement terrorisés qu'ils ne trouvent pas les mots. Parce que la self-défense, ils commencent d'abord par les mots pour apaiser les choses. Mais ils ont tellement subi que même les mots, ils ne les trouvent pas. Donc nous, on les prépare d'abord à s'exprimer, que ce soit avec la parole ou avec le geste. Et comme ça se passe d'une manière ludique, on change de partenaire, ça se passe. Donc le fait de découvrir qu'ils sont capables de faire cette chose, ils sont capables de faire autre chose.
Ça donne confiance en soi.
C'est ça.
Alors qui elles sont ces femmes ? Est-ce que c'est essentiellement, est-ce qu'il y a un âge particulier ? Combien elles étaient par exemple au dernier stage ? Est-ce que c'est essentiellement des femmes qui ont déjà subi des agressions ?
Il y en a quelques-unes, mais là j'avais décidé de le faire que pour les adultes. Mais j'ai surpris qu'il y avait des jeunes demoiselles, 17-18 ans qui sont inscrits, mais je demande qu'ils soient accompagnés par la maman. Mais voilà, la question c'était par rapport à l'âge, ça ?
Par rapport à l'âge, ou enfin qui elles sont, en tout cas ces femmes d'où elles viennent.
On est 17 à 44 ans, hein, j'en ai eu. Et c'est surprenant. Et les filles aussi, quand on en parle, oui, bon, on se sent agressé aussi dans les lycées, on se sent aussi racketté, donc on a besoin de savoir se défendre. Mmh. Ou même s'ils ne l'ont pas subi directement, ils l'ont vu autour, autour d'elles. Donc c'est vrai que c'est des outils supplémentaires, toujours encore pour la confiance en soi, mais aussi savoir se défendre, il ne faut pas l'oublier ça. C'est-à-dire on n'est pas là pour apprendre à caresser, on leur apprend des techniques hein, qui viennent des arts martiaux. Mmh. Il faut juste savoir, entre parenthèses, mais je vais être rapide, c'est que les arts martiaux, surtout le karaté, avant qu'ils rentrent dans les écoles, les maîtres, ils ont exclu ou caché des techniques dans le kata, c'est-à-dire ils ont codifié des techniques dans le kata pour que ça ne tombe pas, voilà, pour que ça puisse rentrer dans les facultés, dans les écoles. Mmh. Donc nous, on apprend pas mal de techniques qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc au self-défense, on va aller chercher quelques petites techniques, hein, quelques petites techniques qu'on leur offre, on leur donne. Et on leur parle de légitime défense, parce que ça rentre dans le cadre de la légitime défense. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un a pris ma place de voiture que je vais sortir mes techniques, parce que ça peut être très dangereux. Même. Donc voilà, donc, le but c'était ça, leur donner un outil qui est aussi efficace. C'est pas que la confiance c'est une chose, mais un outil efficace aussi, s'il n'a pas d'autre choix que se défendre.
Donc efficace et de légitime défense, comme c'est le cas de la plupart
des... Ah, il faut que ça soit dans la légitime défense.
Bien sûr. Et c'est le cas de toute façon de manière générale pour le karaté.
On
n'arrête
pas de
le
dire.
Alors quel type de karaté est-ce que vous enseignez?
Alors nous on enseigne le karaté Shotokan. Karaté Shotokan donc qui a été fondé par maître Funakoshi. Quand on dit fondé, ça les arts martiaux ils existaient bien avant. Mais pour que ça rentre encore une fois dans les écoles, donc ça a été fondé d'une manière à ce que ça ne peut pas être violent et puis que ça devienne sportif. Sans dénaturer l'art en lui-même, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ont codifié les techniques qui peuvent être dangereuses dans des katas. Le kata, c'est quoi? C'est un combat imaginaire, c'est-à-dire c'est un travail individuel, donc la personne il apprend. Et plus il avance dans le grade, plus le kata est un peu plus, plus compliqué, plus, parce que ça cache d'autres choses. Mmh. Et justement, et je trouve que c'est très très bien, parce qu'on ne peut pas donner ça au premier venu, parce que ça peut être une arme. Ça peut être énorme. Et puis ils ont instauré l'histoire de grades. Les grades, pourquoi? Parce que justement, ils estiment qu'avant d'arriver à ce niveau-là, il faudrait un certain âge, une connaissance, et encore une fois, pour que ça ne soit pas tombé sur les mains de n'importe qui.
Mmh, okay. Parce qu'il y a plusieurs valeurs aussi derrière le karaté, alors, parmi lesquelles le respect, l'honneur, il y en a certainement bien d'autres.
Le respect, bien sûr.
La confiance en soi aussi, on en a parlé. Est-ce que du coup ces valeurs sont particulièrement efficaces dans le cadre d'un stage de self-défense?
Absolument.
C'est celle-là que vous mettez en avant.
C'est celle-là qu'on met en avant, parce que pour pouvoir se défendre, on parle de défense, tout ça, il faut d'abord accepter de dire j'existe, je connais mes limites. Et je connais les limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc ça, c'est une forme de dire coucou, on ne s'excuse pas d'exister. C'est déjà important. Mmh. Donc on met une distance entre l'agresseur et la personne qui est mesurée par la longueur des mains. Donc ça en soi, c'est très important déjà pour débuter. Coucou, j'existe, je suis là. Mmh. Et le geste, ça montre, si tu dépasses cette limite que moi j'ai définie, ça va être autre chose. C'est une expression. Mmh. C'est une expression gestuelle. Mmh. Et après, il faut apprendre pour être aussi... que ça ne reste pas là. c'est difficile à dire, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire à quelqu'un stop et il va arrêter, ça dépend. Ouais. Des fois, on est obligé de se défendre, et il faut être efficace, tout de suite.
À partir de quand est-ce que ça commence ce j'existe? Est-ce que c'est dès qu'on monte sur le tatami?
Absolument.
Concrètement.
Absolument. Ça existe au moment où je prends mon sac et je dis je vais aller faire un cours de self-défense. Ça c'est déjà se donner un temps pour soi.
Très concrètement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un stage d'une journée? Est-ce que c'est sur plusieurs séances? Et à quoi ça ressemble une après-midi type où on va participer à un stage de self-défense féminin?
Très bien. Alors, premièrement, on commence par une bonne respiration. Une respiration parce que, comme j'ai dit, ça se base surtout sur la légèreté, la fluidité. Il faut que le corps soit détendu. Pour qu'il soit plus alerte, il faut que le corps soit détendu. Donc voilà, respiration, des étirements qu'on a appris dans le yoga. Donc je parlerai de mon parcours après, pourquoi je fais ça. Et après, on commence à travailler par atelier, par deux par deux, et ainsi de suite, après l'avoir montré une petite technique simple à partager. Et on construit là-dessus. C'est-à-dire, on apprend une petite technique simple, et puis on rajoutera une autre. Et voilà, il évolue tranquillement. Par contre, on ne donne pas beaucoup, parce que ça sature l'esprit. Donc, il se peut sortir de là, dire, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Tellement de choses, mais rien en même temps. Donc, moi, j'ai choisi 3-4 techniques que les gens partent avec ça. Et puis s'amuser avec aussi. Pas plus. Et ça peut prendre du temps. Mais après, ils travaillent en atelier, donc on change de partenaire parce que les gabarits ne sont pas les mêmes et ça change d'énergie, ça change tout de suite. Et on finit par de la respiration consciente ou le... comment on appelle ça, donc l'emprunter au yoga, hein, donc ça existe dans le rebirth, dans le yoga et tout ça, pour le retour au calme. Parce que sincèrement, ce travail-là, ça peut remonter les choses. Et mon objectif, ce n'est pas que les gens remuent des choses qui sont mal, c'est qu'ils posent ça au dojo. Mmh. Voilà, c'est très très important ça. Le début et à la fin. Mmh. Le milieu, ils ont le temps de le travailler. Mais partir avec, remontant de passé, remontant beaucoup de choses, il faut savoir le prendre en charge. Mmh. Et ça, c'est notre expérience qui fait qu'on essaie de gérer avec chacun et je m'adapte à chacun pour enseigner.
Pour enseigner, donc c'est des techniques que vous avez vous-même appris. Alors, vous disiez que vous alliez parler de notre parcours. Comment est-ce que vous avez appris toutes ces techniques et comment est-ce que vous en êtes, vous, venu à devenir professeur de karaté?
En fait, moi, je suis le quatrième de quatre frères, en fait. Dont deux, ils ont fait de la boxe et un, il a fait de taekwondo. Donc, moi, ça ne me disait rien. Je suis petit, j'étais bien dans le rond, le volet, machin, compagnie. Ça ne m'a jamais attiré. Mais ici, en France, voilà. Moi, a voulu... j'avais envie de pratiquer de la boxe, mais pas la boxe anglaise. J'avais envie de pratiquer le pied-point. Donc, j'étais pratiqué le full contact avec un énorme monsieur qui était champion d'Europe à l'époque, qui s'appelait Santa Cross, qui m'a fait aimer l'art. Et donc, je suis resté 6 ans avec lui, dans la boxe. Mais il y avait toujours voilà, la confrontation, le ring, le machin, les trucs. Et avec l'âge, on avait envie de voir autre chose. Et donc là, après, je passe au karaté. Pareil, le karaté... c'était très bien. J'ai commencé à la Bigude et le prof de la Bigude m'a présenté au prof de Montélimar. Donc je faisais les deux cours, enfin 4 cours par semaine, donc de la Bigude et Montélimar, parce que ouais, je trouvais une passion, quoi. C'était intéressant. Mais malgré ça, il y avait quelque chose qui manquait. Ça manquait parce que le cadre tel qu'il est enseigné ici, c'est un peu de rigidité, un peu d'explosion, on ne parle pas de l'énergie interne. Alors, moi, j'ai dit, non, le karaté, il ne doit pas s'arrêter là, il doit y avoir quelque chose. J'étais cherché dans l'aïkido, donc j'ai pratiqué de l'aïkido, pas pour devenir aïkidoka, mais pour enrichir mon karaté. Donc, là, j'ai travaillé, je l'ai dit à mon prof, c'était Yuta à l'époque, Bernard Yuta, qui enseigne toujours chez elle, de Manas, et je lui ai dit, moi, je ne viens pas pour l'aïkido, pour sa technique, mais pour le test avec qui, c'est tout ce qui est esquive, les mouvements circulaires. Et franchement, elle m'a donné beaucoup d'amour, et que j'ai amené à mon karaté. Mais malgré ça, j'avais encore besoin de souplesse. J'étais là chercher dans l'aïkido, dans le yoga et le tai chi. Et quand j'ai trouvé le tai chi, alors là, c'était autre chose. Le tai chi, c'est quand même la mère des arts martiaux. Le tai chi, c'est le geste pur.
C'est la racine des arts martiaux.
Pour moi, oui. Pour moi, c'est la racine pure des arts martiaux. Et ce n'est pas que physique. Il y a des choses qui se passent intérieurement. Et on apprend à se connaître aussi à travers le tai chi parce qu'on voit son bien et son mal. On ne peut pas mentir en tai chi. C'est impossible. Parce que le corps, il est physiquement, psychologiquement, on peut dévier, mais le corps, lui, il est là, il rappelle des choses. Le tai chi nous fait voir ça. Voilà l'expérience que j'ai et que j'essaie de partager, tout en respectant le cadre de l'école Shotokan, parce que les élèves, il se peut qu'ils s'en foutent de tout ça, ils veulent passer leur grade, donc où ils changent de club, il faut qu'ils aient des bases. Donc on leur apprend les bases, bien sûr, et pour certaines personnes, à un certain âge, qui veulent aller plus dans le martial, on y va.
Donc voilà. Une expérience qui s'enrichit de plusieurs arts martiaux. Et à partir de quand est-ce que vous avez décidé de monter du coup Karaté Dulfi et de proposer des cours? Depuis quand?
D'accord, d'abord on a une structure extraordinaire. Il n'y a rien à dire.
Extraordinaire.
Moi j'ai fait des stages, j'ai fait beaucoup de stages en France. Hein. On n'est pas resté dans son club, on a bougé partout. Une structure comme la nôtre, je ne sais pas si vous avez visité.
Non, j'ai pas eu.
Elle est magnifique, il faut venir voir le dojo.
Avec plaisir.
Il y a ce qu'il faut pour s'entraîner, est-ce qu'il faut, il y a des douches, si y a femme à part, homme, enfant, puis je ne sais pas combien il fait de mètres carrés, mais il y a de quoi faire. Quoi. On peut rentrer 30 personnes dans le dojo. Donc, puisqu'il y a l'outil, Au début, moi je voulais juste enseigner, donc je l'avais proposé à l'ami Calais, qui a longtemps, parce que ça a démarré en 2006. Et l'ami Calais, il avait fait une expérience auparavant, ça n'a pas marché, donc ils ont dit bon, on va pas s'engager sur un truc qui n'a pas marché. Donc moi j'ai dit bon, je suis prêt à courir le risque, j'ai fait. Puis ça a tenu. Ça a tenu jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des années où il y a moins, d'autres années où il y en a plus, et ça continue. Donc aujourd'hui, j'enseigne à Bordeaux, j'enseigne ici à Dulphy, je fais des cours particuliers donc, chez les gens qui ont envie de... Parce que je suis professionnel, je suis à mon compte, des gens qui ont envie de travailler chez elles, donc j'y vais chez elles, on apprend aussi.
Ok, donc voilà. Même à l'extérieur, vous vous déplacez.
Absolument. Absolument. Okay.
Et vous vous déplacez également dans les écoles, je crois.
Alors ça, j'ai fait ça l'année dernière, ou il y a deux ans, sur des écoles un peu retirées, c'était vers Soyon et Sous. Et Sous. Donc les écoles, ils ont voulu essayer cette étape par rapport à leurs enfants, et c'était une expérience extraordinaire. Parce qu'on a des enfants, ils sont petits, on a des enfants qui se viennent, ils sont timides, d'autres un peu turbulents. Et au bout d'un mois, on les voit accepter la discipline. La comprendre d'abord et l'accepter. Ouais. Donc, c'était pas un gourou, quelqu'un qui leur impose des choses. Mais comme il y avait des jeux derrière tout ça, des trucs ludiques, donc ils avaient envie de venir. Mais si tu veux venir à ces jeux-là, il y a des règles. Donc, c'était accepté. Et ils viennent avec enthousiasme. Et nous, notre but, c'était que les enfants se retrouvent entre eux, travailler tous entre eux, avec tout le monde. Parce qu'on remarque quand même qu'à l'extérieur, les enfants, voilà, il y a des couches sociales, il y a des facteurs qui jouent que les enfants ne sont pas amenés à travailler ensemble. Et là, dans le karaté, il n'y a pas d'autre choix que de travailler avec tout le monde. Je progresse avec et à travers l'autre. Et au bout d'une année, c'était... Bon, moi, j'ai appris beaucoup de choses, moi. Ouais. Franchement, j'ai appris énormément. Nous, on vient avec les outils, mais on est surdoyens. Mais quand on voit le résultat, je vois, il y a quelque chose... ça aurait été génial qu'un jour ou l'autre... cet art soit entré dans des écoles, faire des tests du moins, voir ce que ça peut donner.
Parce que du coup, au-delà du karaté à proprement parler, qu'est-ce que vous cherchez à leur apprendre à ces enfants? Qu'est-ce qu'ils apprennent avec ces cours-là?
Apprendre son potentiel, parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire, mais des fois, il n'est pas utilisé à bon escient. Donc, il y a des gens qui sont gauchers, qui disent « Ah, mais un gaucher ne peut pas rien faire ». Mais oui, mais il peut faire des choix extraordinaires. Donc déjà, il commence à avoir aussi confiance en lui. Et il commence à changer la vision de lui sur lui-même, et forcément, la vision de l'autre sur lui. Et ça, c'est des enfants. Entretien, bah, peut-être qu'il n'est pas bien à l'école, mais au karaté, il est super. Et donc, ça approche aussi. Et donc, pour moi, ça, c'est déjà extraordinaire, quelque chose de très important. Donc, je ne suis pas nul. Non, je peux exceller. Et si j'arrive à exceller dans le karaté, je peux, encore une fois, exceller dans d'autres choses. Donc, on leur donne ça aussi, la confiance en soi, certes, mais l'expression. À travers des gestes, à travers... Et puis le karaté, c'est un travail collectif et un travail individuel aussi, en même temps. Quand on fait le kata, l'enfant, il le fait tout seul. Et là, on voit comment il s'exprime, comment il met sa personnalité dans le kata. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose à voir. Donc c'est pour ça que je vous appelle, mais je vous remercie d'avoir pour l'invitation, je n'ai pas dit au début, mais c'est aussi parmi les choses qui m'ont fait venir chez vous, c'est de parler de ça. Parce que les valeurs aujourd'hui se perdent malheureusement, même dans les salles de cours. Et un art comme celui-là, c'est vrai que ça pourrait aider, cadrer.
À retrouver ces valoirs-là.
Qui sont universelles.
L'existence,
le respect, le partage, le courage aussi. Le courage, dans tous les sens du mot. Coucou, je suis là, pour moi, c'est du courage déjà. Parce que des enfants qui sont tétanisés. Voilà. Donc
des valeurs qui se rapprochent finalement pas mal de celles que vous essayez d'amener via les cours de self-défense.
Absolument. Et elles restent les mêmes. Elles restent les mêmes en fait.
Alors pour en revenir à ça, je pense que les auditrices et les auditeurs se sont facilement rendus compte qu'on est aussi en non-mixité là, autour du studio, puisqu'on est, on est deux hommes. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de paradoxal, ou est-ce qu'au contraire il y a aussi un travail à faire entre hommes, puisque si c'est souvent les femmes qui sont les victimes, malheureusement, la plupart du temps c'est eux les agresseurs. Est-ce que c'est quelque chose dont vous essayez de parler aussi quelque part dans vos cours, alors cette fois je parle de vos cours habituels, donc pas des cours de self-défense féminin, mais de parler entre hommes, ou voilà, est-ce qu'il y a ces espaces de discussion, ou est-ce que ça se transmet en tout cas via vos cours
ça se transmet à travers le cours lui-même. On ne rentre pas dans la sphère privée des gens.
Bien sûr.
Mais en revanche, quand on voit un débordement dans un cours, ça peut se voir, parce que la personne qui est débordée, il est débordé, il déborde, on le fait savoir. Les limites, ils sont dépassées, et puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, la manière de s'excuser, ça peut le remettre à sa place. C'est une manière très spéciale pour s'excuser. D'avoir. Et donc ça, on est en train de lui dire, ici, c'est le salut d'abord. On commence par le salut, on finit par le salut. Il y a le respect, sinon il n'y a rien. Donc on est là, on est cheval sur ça. Donc c'est tout ce qu'on peut leur dire. C'est que si tu veux être respecté, respecte l'autre. Mais après.
Donc à l'inverse de tous les clichés qu'il peut parfois y avoir sur les arts martiaux et tout, comme quoi ça pourrait être des sports soi-disant violents, en fait, c'est tout l'inverse. On apprend aussi la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi, et puis connaître ses limites. Connaître ses limites, c'est intéressant aussi. Connaître ses limites, ça te demande de travailler sur toi. Et en travaillant sur soi, on se rend compte qu'il va falloir enlever certaines choses pour pouvoir accéder. Je vais être un peu terre à terre, je vais dire le poids par exemple. Ben voilà, déjà je commence à travailler sur moi. Donc les visions différentes. Ben, je bois trop, ben, falloir. Parce que moi, j'arrive, je sens dans le coin, c'est hors question que je fais le cours chez moi, c'est pas possible. Donc tu vois, c'est des exemples basiques, mais je vous dis, il y a certaines choses qui peuvent changer. Un gamin que j'apprends qu'il s'est bagarré dehors, moi j'ai les parents qui m'ont appelé. J'ai dit, ça va, une fois, deux fois, je ne viens pas. Même si tu as payé ta licence. Donc, il y a ça. Donc, pour les adultes, sincèrement, on ne rentre pas dans leur vie privée, mais dans le dojo. Dojo, ça veut dire quoi? Le dojo, c'est la voie. Le dojo, c'est le lieu où on pratique la voie. Donc, s'il vient pour pratiquer cette voie, il a des règles. Il a des, paradoxalement, il ne vient pas du Japon, il vient de Confucius, il vient de Kwasin. Mais c'est des règles universelles qu'il faut respecter. Voilà. Ok. Donc voilà notre partage avec les hommes, c'est pas toujours évident, mais à travers le mouvement, à travers particulier le kata, comme je disais tout à l'heure, on peut adoucir un peu l'énergie qui déborde, on peut parler de la respiration, on peut parler de beaucoup de choses. Voilà. Okay. J'espère que j'ai bien répondu.
C'est une très bonne réponse. Et du coup, tout ça se passe au dojo, justement, donc le dojo qui est situé au-dessus du gymnase de Dieulefi.
Absolument, oui.
Alors, est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous pour l'association Karaté Dieulefi? Ou alors, en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si on veut soit suivre un stage de self-défense féminin, un cours habituel de karaté, ou si on est une école et qu'on veut vous faire venir?
Donc, le cours karaté, il se fait le lundi de. Les enfants de 16h à. Non, 17h à 18h. Et 18h à 19h30, le lundi pour les adultes. Le mercredi, de 15h à 16h enfants. Et de 16h à 19h adultes. Le jeudi, de 19h à 21h30, full contact. Et le samedi, de 14h à 16h, full contact. Voilà. Donc le self-défense, lui, il reste des stages ponctuels. Une à deux fois par mois.
Des stages qu'on suit sur une seule journée, hein. On l'a pas précisé. Mais
non, ça se fait sur deux heures et demie maximum.
Sur deux heures et demie. Mais je veux dire, on revient pas plusieurs séances, c'est une seule séance, c'est pas le même groupe.
Sur Bordeaux, ils sont en train de montrer des femmes, ils essayent de mettre un cours, mais moi je leur dis, c'est pas très intéressant de faire des cours réguliers, cette défense, mais c'est bien qu'ils viennent au stage. Et donc là, par exemple, le dernier stage qu'on a eu, c'était le 1er février. J'ai fait la bêtise, une mauvaise manie, puis j'ai pas envoyé les mails aux gens qui étaient là. Donc après les stages, ils m'ont contacté, comment ça se fait qu'il y a eu stage et tout. Et je me suis excusé, mais du coup, on a décidé de faire un autre le dernier samedi de février, que ce serait le 26, il me semble.
Le 26 février.
Voilà, et donc voilà, cette fois-ci, ils seront contactés en temps et en heure, et puis on verra ce que ça va donner.
Ok. Alors comment, alors pour ceux qui ne sont pas encore en contact avec vous et qui voudraient participer à ce stage, d'accord. Est-ce qu'il y a un endroit pour vous contacter? Est-ce qu'il y a un site?
Je donne mon téléphone, comme je dis ça les affiches, donc c'est Mimo. Téléphone donc 06 38 83 83 76. Voilà, donc ils posent leurs questions, on est là pour répondre et puis les accueillir avec grand plaisir.
Super. Donc on vous invite toutes et tous à contacter Mimo si ça vous intéresse. Merci beaucoup Mimo d'être venu.
Merci à vous.
Au studio. Et à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
radiola.media.